Traductrice et maître de conférences en langue et littérature chinoise à l'université de Lille 3, Françoise Naour a reçu en 2003 le prix du mot d'or de la traduction pour « Des yeux gris clairs » de Wang Meng, paru chez Bleu de Chine. Elle vient de publier « La rivière des femmes », un recueil de nouvelles de Li Qiqiang et She Shuqing, deux écrivains Hui de la province du Ningxia, aux éditions Bleu de Chine Gallimard. Alors tant pis pour mon accent, mais c'est pas grave. Alors Françoise Naour, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la littérature chinoise et notamment celle des Hui?
Eh bien, je m'étais aperçue que parmi les nombreuses minorités dites nationales qui existaient en Chine, peu d'entre elles avaient accès à une traduction occidentale, en dehors de quelques auteurs tibétains qui écrivent en chinois, et de un ou deux auteurs mongols qui écrivent également en chinois. On ne parlait pratiquement pas des littératures minoritaires. Et un jour, lorsque j'étais dans une librairie à Pékin lors d'un voyage il y a quelques années, j'ai découvert un texte, une revue, un magazine littéraire plus exactement, dans lequel j'ai découvert une nouvelle d'un des deux auteurs qui s'appelle She Shuqing. Et ce qui m'a permis de savoir qu'il s'agissait d'un Hui, c'est que son nom était accompagné du caractère Huizhu, c'est-à-dire minorité Hui. Et donc j'ai lu le texte, qui était le premier d'ailleurs de ceux que j'ai traduits, qui étaient les 5 yuan. Je l'ai lu, j'ai été passionnée par cette littérature qui, bien qu'écrite en chinois, néanmoins évoquait des traditions, des rites et toute une vie d'une minorité très peu connue en Occident. Je me suis mise donc à traduire She Shuqing, les 5 yuan, puis un texte le suivant, donc j'ai été en contact par internet et par téléphone avec cet auteur. J'ai traduit d'autres nouvelles de lui et puis celui-ci m'a fait connaître un autre auteur qui est Li Dinxiang et j'ai traduit également des textes de Li Dinxiang.
Alors qu'est-ce qu'on appelle la Chine des minorités ?
Ça suppose d'abord que je définisse un petit peu la population chinoise, c'est-à-dire que la population chinoise est actuellement composée d'à peu près 1,4 milliard de Chinois. Lorsqu'on dit chinois, en réalité, c'est un mot très général. 90% de cette population est constituée de ce qu'on appelle l'ethnie majoritaire, qui sont les Han, H-A-N. À côté de cette ethnie majoritaire, il existe ce que l'on appelle les minorités nationales. En fait, le terme de minorité nationale a été créé en Chine en 1953, de façon à ordonner un petit peu toute cette population disparate qui n'était pas la population des Han. Et on est arrivé en 1953 à un classement très ordonné. On a recensé en tout 55 minorités nationales, parmi lesquelles il y a les Tibétains, il y a les Ouïghours, il y a toutes les minorités du sud de la Chine, les Mongols, les Coréens, etc. Et puis les Hui. Et si je dis « et puis les Hui », c'est qu'en réalité, rien ne différencie les Hui des Han. Et s'ils ont été mis comme ça par le gouvernement chinois dans la grande besace, si l'on peut dire, de ces minorités nationales, c'était par classement, par facilité de classement. Parce que si toutes les autres minorités se reconnaissent comme minorités parce qu'elles occupent un territoire géographique, parce qu'elles ont des croyances qui sont communes, parce qu'elles ont très souvent une langue qui leur est commune, les Tibétains parlent le tibétain, les Mongols le mongol, etc. Les Hui, en revanche, sont une minorité que l'on pourrait qualifier de religieuse. C'est-à-dire qu'en dehors de la religion, qui est l'islam, qui les distingue des Chinois Han, pour le reste, ils sont chinois. C'est-à-dire qu'ils parlent le chinois, ils écrivent en chinois, et leur physique est tout à fait semblable à celui des Chinois des Han.
Alors les Hui sont à peu près 10 millions, mais ce ne sont pas les seuls musulmans, puisqu'il y a 10 autres ethnies en Chine qui pratiquent la religion musulmane. Alors pourquoi cette différence avec les Hui?
Disons que la différence entre les Hui et les autres, c'est que les Hui écrivent en chinois et parlent chinois. Alors que les autres, effectivement, il y a à peu près en Chine 20 millions de musulmans. Sur ces 20 millions, il y a 10 minorités dites nationales. 8 d'entre elles sont turco-mongoles ou turcophones. L'une d'entre elles, les Tadjiks, sont persanophones. Et les Hui sont les seuls sinophones, en fait. Et donc, on les a effectivement regroupés dans les minorités parce qu'elles sont un peu différentes. Mais leur différence est religieuse et absolument pas linguistique, comme le sont les différences entre les autres minorités.
Alors, l'origine des Hui vient de la route de la soie et des rapports avec le Moyen-Orient et la Perse.
Exactement. En fait, les premières migrations, qui n'étaient pas des migrations d'ailleurs, les premières incursions des, disons, de ce qui va devenir les Hui, hein, datent de la dynastie des Tang, c'est-à-dire début du 7e siècle, début du 10e siècle, lorsque des marchands et des commerçants qui arrivaient de Perse et d'Arabie sont arrivés en Chine pour faire effectivement du commerce, pour acheter, importer, exporter, etc. Et on a retrouvé des traces de la présence d'un ambassadeur, justement musulman, arabe, qui s'était rendu à la cour de l'empereur Gaozong en 651. Donc voilà, ils sont entrés comme ça, donc sous cette forme-là, sous la forme effectivement de voyages commerciaux, de voyages d'import, export, importation de produits de Perse, et puis exportation de produits chinois. Et par la suite, ce genre de négoce s'est multiplié, hein, et avec à nouveau de grandes vagues de migration à l'époque des Yuan, c'est-à-dire 14e siècle, lorsque des hommes d'affaires, des commerçants encore, mais venant cette fois-ci d'Asie centrale, sont entrés en Chine. Ceux-là aussi étaient musulmans. Donc il y a eu comme ça une espèce de métissage. Tous ces musulmans qui sont arrivés, hein, soit d'Arabie, de Perse, puis plus tard d'Asie centrale, sont arrivés en Chine. Ils se sont mariés aux indigènes qu'ils ont rencontrés. Ils se sont installés, ils ont eu des enfants. Et puis, ils se sont reproduits comme ça, une génération la suivante. Ce qui fait qu'ils ont fini par parler la langue chinoise de la région dans laquelle ils se sont installés. Et ils n'avaient plus comme... disons, différence avec les Han qui se trouvaient là, que la religion, puisqu'ils ont conservé leur religion.
Alors tout ça est arrivé parce qu'ils étaient tombés amoureux de jeunes Chinoises.
Exactement.
Alors, Li Tianxiang et Shi Shuqing sont de la province du Ningxia. Alors, est-ce qu'on peut situer cette province sur une carte de Chine, même à la radio ?
Oui, je pense que c'est possible. En fait, bon, si vous avez une carte de Chine en face de vous, c'est une province qui se trouve au sud de la Mongolie. Hein. Donc on a la Mongolie intérieure qui est une province chinoise, et au-dessus de la Mongolie intérieure, il y a la Mongolie, hein, la République mongole avec Oulan-Bator comme capitale. Mais disons qu'on regarde la Mongolie, dessous la Mongolie intérieure qui est une province chinoise, et dessous la toute petite province du Ningxia qui est une province tout en hauteur, on va dire. Et elle est parcourue par une rivière qui est récurrente dans tous les textes de nos auteurs Hui, qui est la fameuse Tingxia, qui veut dire les eaux pures et les eaux claires.
Voilà. Et qu'on retrouve tout à fait dans les nouvelles dont on va parler. Alors, cette province est une région autonome, tout comme le Tibet, finalement.
Exactement. Depuis 1958, c'est une région autonome.
Ça veut dire quoi, région autonome ?
En fait, région autonome, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que, de toute façon, ces régions dépendent du gouvernement central qui se trouve à Pékin, mais qu'à la tête de ces régions, il y a aussi des représentants de la minorité majoritaire de la région.
Alors les Hui sont partout en Chine et pas que dans la province du Ningxia. Est-ce que tout comme au temps de la révolution culturelle qui fermait les mosquées, ils inquiètent le régime parce qu'ils sont musulmans ?
Non, il n'y a pas chez les Hui de revendications identitaires belliqueuses comme il peut y en avoir chez les Ouïghours du Xinjiang. Mmh. Donc il n'y a pas de problème et ils vivent de façon effectivement très regroupée. Hein, on les trouve à Pékin, il y a beaucoup, il y a une forte densité de Hui à Pékin du côté de Niaodie, la rue de la Vache, là où se trouve la mosquée. Se trouve également du côté de Xi'an, on trouve à Shanghai, en fait on en trouve dans toutes les grandes villes, et ils ne sont pas du tout des provocateurs ni des trublions, on va dire, de l'ordre voulu par le gouvernement chinois.
Ce qui fait que donc le gouvernement n'en a pas peur.
Non.
Ils ont donné d'ailleurs à l'histoire un fameux amiral, Zheng He.
Oui.
Ça, c'est, on s'y attend pas.
Non, c'est l'amiral des Ming, effectivement.
Ben voilà, malgré tout, ils ont quand même beaucoup participé à la grandeur de la Chine.
Oui.
Alors donc, pas de discrimination comme au Tibet.
Non.
Bon, formidable.
Il ne peut pas y en avoir, d'autant que leur physique est tout à fait semblable à celui des Han. Donc ce qui permet parfois de les différencier, c'est que les hommes portent une espèce de petit calot blanc lorsqu'ils vont prier, lorsqu'ils vont à la mosquée, et que les femmes portent parfois des foulards. Mais elles ne sont pas voilées, ce qui permettrait de les différencier. Et puis surtout, leur physique est le physique des Han, et non pas les Tibétains se reconnaissent effectivement et se différencient des Chinois parce qu'ils ont les pommettes un peu plus hautes, parce qu'ils ont effectivement, disons, ils relèvent d'une autre physionomie. On va dire. Mmh,
tout à fait. Alors, la littérature Hui existe-t-elle ?
Eh bien, Alors là, c'est une question qui se pose depuis exactement en Chine depuis 1979. C'est-à-dire que au sortir de la révolution culturelle, la Chine s'est dit qu'il fallait peut-être s'intéresser aux littératures des minorités nationales. Et il y a eu un certain nombre d'intérêts hein, portés sur des écrivains qui vivaient dans les régions où demeuraient des minorités nationales. Et c'est à ce moment-là, en 79, qu'on a décrété qu'il existait une Hui Zhu Wen Xue, une littérature des Hui, parce qu'un certain nombre d'auteurs commençaient à écrire et se différenciaient justement par les contenus de leurs textes. Ils mettaient en scène des personnages qui étaient des personnages Hui, qui pratiquaient l'islam, qui respectaient un certain nombre de rites concernant par exemple les rites funéraires, concernant l'abattage des animaux, etc. Donc on a estimé qu'il y avait une littérature Hui. Et lorsque les Chinois ont essayé de différencier, de caractériser cette littérature par rapport à la littérature, on va dire, des Han, ils sont arrivés à la conclusion que la littérature Hui, c'était une littérature qui mettait en scène des personnages aux caractéristiques Hui. Alors, tout ça, ça ne veut rien dire. En fait, il faut repérer plutôt dans les textes ce que sont les marqueurs, justement, identitaires Hui. Mais disons que c'était une littérature dans laquelle on trouvait des personnages qui avaient une histoire qui les ancraient certes dans la nation chinoise, mais qui était une histoire de leurs ancêtres ou de leurs, disons, de leurs aïeux, qu'il y avait également toujours une présence de l'islam dans ces textes et que les écrivains avaient une certaine empathie pour les pratiques de l'islam. Voilà.
En toute logique. Quelle place occupent ces écrivains Hui dans le paysage littéraire chinois d'aujourd'hui ?
Alors, ça suppose que je parle de deux auteurs Hui qui sont un peu plus anciens. L'une, c'est une femme, elle s'appelle Huo Da. Elle est née en 1945, mais elle a toujours vécu et toujours travaillé à Pékin. Elle a écrit entre autres un livre qui s'appelle « Funérailles ». D'une famille musulmane. En fait, ça a été traduit en français par Le roi du jade, histoire d'une famille musulmane chinoise. Et c'est une espèce de grande saga qui raconte 60 ans de famille Hui qui travaillait le jade et le vendait, donc des années à peu près 1915-19 jusqu'en 1979. Donc Huo Da, donc c'est une écrivain Hui reconnu, et un autre qui est aussi connu, qui a été un peu traduit en français, et qui s'appelle Zhang Chengzhi, qui est lui né en 1948, et qui exalte surtout dans ses textes en fait la beauté des steppes mongoles, parce qu'il a vécu lui pendant la révolution culturelle, où il avait été envoyé comme jeune instruit se faire rééduquer donc, dans la campagne et dans les steppes mongoles. Il a été émerveillé par les beautés sauvages. Et donc, il a écrit des textes qui parlent un peu des Hui, mais surtout qui exaltent la beauté de la Mongolie intérieure. Cet auteur, Zhang Chengzhi, a, par exemple, écrit un texte qui a été traduit en français sous le titre de « Fleurs entre là », hein, qui est paru aux éditions Bleu de Chine en 1995.
Est-ce que les écrivains Hui sont plus traduits en anglais qu'en français ?
Ces deux-là sont traduits. Zhang Chengzhi et Huo Da donc, sont traduits en langue occidentale, en tout cas en français et en anglais. Les deux dont je vous parle, dont je vous lirai peut-être quelques extraits aujourd'hui, Shou Shuting et Li Dinxiang, sont jeunes. L'un est né en 1968, l'autre en 1969. Et avant que moi-même je ne les traduise, ils n'avaient absolument jamais été traduits en aucune langue occidentale.
Bon, formidable. On peut être fier donc d'avoir pour la première fois en français la traduction de ces deux jeunes auteurs. Alors la traduction, c'est un exercice difficile, en chinois peut-être encore plus, mais puisque le chinois des Hui n'est pas différent du chinois des Han, est-ce qu'il y a une spécificité particulière, des difficultés particulières avec ces écrivains ?
Oui. La difficulté ne tenait pas tant au caractère chinois, puisque effectivement c'est écrit en caractère chinois. La difficulté tenait à l'utilisation par nos auteurs de termes qui étaient des termes translittérés, soit du persan, soit du l'arabe, soit de l'arabe, pour tout ce qui concerne la religion. C'est-à-dire que, par exemple, je pense là, il y a une prière chez les Hui, une prière qui se dit Dououa. Hein. Et c'est un terme qui vient de l'arabe, qui est la Doua. Et en chinois, ils ont translittérés, c'est-à-dire qu'ils ont entendu ce terme de la prière, c'est le doua. Ils ont essayé de trouver deux caractères qui correspondaient à la prononciation de ce mot. Un caractère qui est doux, un caractère qui est wa. Mais les deux combinés ne veulent pour un chinois absolument rien dire. Et les difficultés que j'ai eues justement dans la traduction et dans les traductions des textes de ces deux auteurs, c'est lorsque j'étais confrontée à tous les termes de la religion. Parce qu'il s'agissait parfois de termes qui venaient de l'arabe et donc qui étaient translittérés, donc c'est-à-dire phonétiquement, ou bien parfois qui étaient traduits par rapport au sens. Je vais vous expliquer. Et quand je m'adressais à des amis chinois pour leur demander, mais ils ne comprenaient pas, parce que ça supposait d'être quand même de la même foi que les roué pour comprendre ces deux caractères combinés qui n'avaient aucun sens, qui n'étaient absolument pas pertinents pour un lecteur chinois non religieux, non pratiquant de l'islam. Alors, une autre chose aussi, je vais vous donner un autre exemple, c'est il y a les ablutions. Hein, les ablutions qui sont, pour les roué ou pour les musulmans d'une manière générale, très importantes. Hein. On fait ce qu'on appelle les petites ablutions ou les grandes ablutions. Les petites, c'est lorsque on va aller prier, c'est lorsqu'on se lève le matin, etc. Ça suppose se laver les pieds, se laver les mains, enfin les choses assez rapides, hein, superficielles. Et puis, il y a les grandes ablutions qui se font avant la grande prière du vendredi, avant les départs au loin, avant un mariage, le corps qu'on va laver justement avant qu'il ne soit inhumé. Et en chinois, ces caractères se disent pour les petites ablutions xiaoding, c'est-à-dire petit propre, et la grande ablution dading, c'est-à-dire le grand propre. Et la première fois que j'ai rencontré ça dans un texte chinois, quand j'ai posé la question à un ami chinois, il ne comprenait absolument pas ce que cela voulait dire, effectivement.
Donc en fait, vous avez appris un peu d'arabe et vous avez téléphoné aux auteurs pour savoir ce que ça voulait dire.
Voilà, c'est ça. Et en fait, là, on a communiqué plutôt par mail, puisque c'était plus facile pour écrire et demander effectivement la transcription.
Alors, avec ces nouvelles, on est loin des villes et de la croissance chinoise à deux chiffres.
Bien sûr. Oui. Non, d'autant que la région du Ningxia est une des plus pauvres régions de Chine. Et les gens qui y demeurent dans une zone très rurale, où la terre est très aride. C'est la terre, en fait, de l'Eus, qui est non loin, en fait, la terre, en fait, de toutes les rives du Huanghe, hein, du fleuve jaune. Et c'est une terre sur laquelle poussent de façon très difficile les choses. Hein. Il y a effectivement de maigres cultures. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, on assiste à un exode massif de tous ces habitants, plutôt des campagnes, hein, de tous ces ruraux de la région du Ningxia, vers les villes. Et les livres que j'ai traduits, et les deux auteurs que je traduis, ce sont des gens qui sont amoureux de leur province, amoureux de la terre, fût-elle âpre, fût-elle difficile à travailler, qui sont amoureux du climat, de la beauté sauvage et aride des paysages. Et lorsqu'ils mettent en scène dans leurs textes des paysans qui partent vers la ville pour s'enrichir, chaque fois, ces gens seront confrontés à la difficulté de vivre en ville, la difficulté de s'en sortir là où tout n'est que quand même bruit, violence, danger, saleté, et ils n'aspirent tous qu'à revenir le long des berges de la rivière Tingshui, qui est cette grande rivière donc, qui irrigue la province de Ningxia et qui est un affluent du fleuve jaune, du Huanghe.
Et avec laquelle on ne peut pas arroser la terre.
Voilà, parce que cette rivière est un peu alcaline, elle est un peu salée, et donc ce n'est pas du tout une rivière qui peut fertiliser, hein, de son eau douce et claire la terre, tout comme les gens ne peuvent pas la boire non plus.
Alors on est étonné dans ces nouvelles de voir cette attention extrême aux choses simples, on en a parlé, au temps qui passe, à la vie quotidienne, rythmée par la terre, aux femmes, aux paysans, à la nature. Finalement, rien n'a changé dans cette Chine-là.
Oui, il y a quelque chose. Bon, je pense que c'est un parti pris des auteurs. Ce sont des auteurs qui vivent là-bas, qui aiment leur région et qui veulent continuer de faire exister au sein de cette grande Chine qui est quand même pleine de tumultes, de brouhaha, de bruit, de fureur, etc. Ils ont envie que continue d'exister cette Chine un petit peu dans un temps aboli. Mais ils sont tout à fait conscients que, de toute façon, le temps est ce qu'il est, hein, et que le Ningxia est en train de changer. Néanmoins, je pense qu'il y a, de leur part, le souci d'idéaliser un petit peu cette région. hein, de façon à montrer les beautés hein, de la campagne d'Héroé au regard de la violence bruyante de la grande ville. Quoi.
Oui, favoriser une Chine intemporelle. Alors, on lit un extrait peut-être pour donner un avant-goût du style de ces deux auteurs. Donc là, on est...
Alors, bien sûr. Alors, ça suppose que je replace un petit peu cet extrait que j'ai sélectionné. Donc là, c'est un auteur, un des deux, c'est Li Dingxiang. C'est celui qui est né en 1968 et qui a écrit toute une série de textes qui s'appellent justement Ting Hui Shui Zhenlu, c'est-à-dire les personnages de la rivière le long de la rivière Ting Shui. Ting Shui, c'est-à-dire eau pure, eau claire. Et donc, dans un de ses textes qui s'appelle Le Boucher, c'est l'histoire d'un père et de son fils qui quittent la campagne où ils vivent, et ils vivaient bien, lui en tant que paysan, et ils vont à la ville parce que le fils travaille très bien et décide d'aller faire ses études à l'université à la ville. Donc le père décide d'accompagner son fils, mais comme il faut de l'argent, parce que vivre à la ville coûte cher, parce qu'entrer à l'université en Chine coûte cher aussi, donc le père décide de quitter ses champs et d'aller travailler comme boucher à la ville, de façon à gagner de l'argent et payer les études de son fils à l'université. Et en fait, son métier de boucher est très particulier. Ce n'est pas vraiment abattre des bœufs, c'est acheter d'abord des bœufs, un ou deux, puisqu'il n'a pas beaucoup d'argent, les engraisser, bien les traiter, bien les nourrir, de façon à ce qu'ils puissent grossir et donner beaucoup de viande qui lui rapportera beaucoup. Et un beau jour, il est rappelé un peu en urgence chez lui, dans sa campagne, parce que c'est l'époque de moisson et ni sa femme ni sa fille n'arrivent à s'en sortir toute seule. Donc il décide de prendre comme ça 3 jours et après quelques péripéties pour retourner de la ville vers son petit village très très loin hein, de tout cela, eh bien il arrive dans cette campagne. Et je souhaitais vous lire justement un extrait pour que vous prenez conscience hein, de la beauté de la campagne que cet homme qui désormais demeure à la ville va redécouvrir. Dès que le boucher fut arrivé au village, dès qu'il y eut aspiré sa première goulée d'air, il se sentit apaisé. L'air apportait la laine des blés mûrs, le parfum de la terre, d'autres senteurs encore, familières, ineffables. Il ne se rendit pas dans sa vieille cour, fila droit vers ses champs. Ce n'était pas une bonne année pour les blés, haut tout juste de 7 ou 8 pouces, avec des épis de misère. Mais aux yeux éblouis du boucher, c'était la plus belle des moissons. Il s'accroupit, arracha une tige. Sous ses doigts, les épillets étaient secs, cassants. Les épis cédaient sans résistance à la pression. Quel crève-cœur! Pis encore que de couper le cou d'un bœuf. Il avait mal assemblé. Les épis se plaignaient dans sa main. Il en égrena un, mangea dans sa paume les grains mûrs, savoura l'arôme de ce coin de terre et, tout en attendant que le jour décline, il s'émerveillait de la couleur des blés mûrs, de leur jaune si pur, enivrant, si différent de celui des colliers d'or des femmes de la ville, de celui de l'or de leurs bracelets, de celui si fade des visages citadins. Il n'y a de vrai jaune que celui des blés mûrs, c'est l'or du regard, l'or du dedans, l'or même du soleil.
Merci Françoise Naou pour cette lecture. Eh bien, on ne pouvait pas mieux enchaîner que par cette phrase de Borges que vous citez en exergue d'une autre nouvelle qui colle parfaitement à cette littérature et qui dit « Je n'éprouve d'étonnement que pour les choses et les phénomènes ordinaires ».
Voilà, alors ce n'est pas moi qui ai choisi cette phrase, c'est la phrase qui a été choisie par l'auteur lui-même, effectivement, dans son dernier texte. Là, c'est l'autre auteur, c'est Xue Shuting, oui. Dans le texte qui s'intitule « Le verger ». Et lorsque je mets en exergue moi-même, je fais une citation. Mais là, c'est une citation qui a été délibérément prise par l'auteur Xue Shuting parce qu'il voulait effectivement nous faire entrer dans le tout venant des jours, la simplicité des jours, des heures et des saisons.
Voilà. Bien sûr, elle est merveilleusement trouvée. Qui lit des romans en Chine ?
Eh bien, Est-ce que je peux dire qu'il se passe en Chine comme il se passe aussi malheureusement un peu partout dans les pays occidentaux, c'est-à-dire que les gens lisent quand même globalement de moins en moins de romans. Hein. Et il y a un genre qui fonctionne très très bien en Chine actuellement, c'est le genre de la biographie, hein, quelque chose qu'ils pratiquaient déjà à l'époque de Sima Tian. Et on s'intéresse beaucoup à la, disons, effectivement aux biographies. Sinon, qui lit des romans? Eh bien, comme un petit peu comme chez nous en France, les lycéens, les étudiants parce qu'ils y sont parfois contraints, également les, comment dirais-je, les classes moyennes, hein, qui lisent également des romans.
Eh bien, Françoise Naour, ce sujet est en passe de s'achever. On ne va pas parler aujourd'hui de Liu Qingbang, pas plus que d'ailleurs des modernistes de Shanghai, ce sera pour une autre émission. On a préféré axer sur la littérature Rouë, qui est totalement inconnue, en tout cas en France. Françoise Naour, merci. Je rappelle que vous venez de publier La Rivière des femmes de Li Zhechiang et Shi Shuqing, deux écrivains.